RMC, le week-end des experts, 6h-7h, votre jardin, François Sorel, Patrick Mulan.
Il est 6h31, vous êtes sur RMC, merci de nous avoir choisis. Un bon réveil à vous toutes et à vous tous, un grand courage à tous ceux qui travaillent. On sait que vous êtes très nombreux, commerçants, boulangers, pâtissiers, les travaux aussi dans la sécurité.
Dans le médical.
Dans le médical aussi, bien sûr. Un clin d'œil aussi aux taxis, aux chauffeurs routiers qui sont avec nous sur la route. Merci d'être là, on sait que vous êtes très nombreux et on pense à vous. Alors, jusqu'à 7h, vous le savez, c'est le jardin. Après, ce sera Christian Pessé pour la maison avec un spécial salle de bain. Mais dans l'immédiat, notre sujet, notre dossier de ce samedi matin, ce sont les plantes compagnes, Patrick.
Alors, les plantes compagnes, ce sont les plantes que l'on peut associer les unes avec les autres, soit pour se faire simplement occuper le terrain de manière optimale. Alors ça, c'est la chose la plus simple. On appelait ça dans le temps des cultures intercalaires. Par exemple, si vous mettez des radis avec des carottes, la croissance des deux n'étant pas à la même vitesse, ben vous occupez le terrain. Bon, il y a après des plantes qui sont qui vont bien ensemble. Vous pouvez aussi mettre des salades au milieu de tout cela, donc avoir un petit ensemble. Mais la vraie plante compagne, en fait, c'est une qui va apporter un bénéfice à l'autre. Et ce bénéfice peut être extrêmement variable.
Et ça, c'est génial. Si vous avez des questions sur ce sujet, quel type de plante va bien s'entendre avec cette autre plante, parce que vous l'avez constaté vous-même dans votre jardin, parce que vous voulez peut-être aussi améliorer la productivité, la production de votre jardin, n'hésitez pas. Le 3216, l'appli RMC Direct Studio, vous nous laissez votre numéro de téléphone, on peut retrouver votre question d'ici quelques minutes. Alors Patrick, pour commencer, les plantes sont-elles réellement capables d'entrer en relation les unes avec les autres?
Alors ça, aujourd'hui, on est certain que oui, on le sait. Alors je ne vais pas aller jusqu'à emprunter le langage extrêmement anthropomorphique qu'il y a eu dans ce livre qui a un succès mondial qui s'appelle La vie secrète des arbres de Peter Wolben, où il parle des mamans arbres, des bébés arbres, etc., carrément la famille des arbres et tout ça. Mais il faut savoir que la présence de chaque espèce dans un écosystème est étroitement liée à celle des autres. Alors que ce soit dans le sens positif ou que ce soit dans le sens négatif. C'est-à-dire que, par exemple, les oiseaux font leur nid dans les arbres, les mammifères herbivores mangent de l'herbe, mais leur déjection apporte aussi de l'engrais qui permet la croissance des herbes. Les insectes, eux, peuvent parasiter les mammifères, etc., etc. Les micro-organismes, eux, jouent un rôle colossal parce que ils entretiennent la qualité du sol, ils décomposent des déjections, etc. Donc tout ça, il y a des relations vraiment intimes qui vont tout simplement au départ d'un simple échange d'informations chimiques, parce qu'en fait, il faut bien le savoir, même si ce mot aujourd'hui est presque devenu tabou, mais le monde est chimique. Alors, il est chimie organique, il est chimie minérale, mais il est chimique. Et il y a des véritables collaborations qui peuvent arriver jusqu'à se terminer en symbiose. On en a parlé ici assez souvent. Par exemple, ce qu'on appelle les mycorhizes, à savoir ces champignons microscopiques qui viennent carrément pénétrer l'intérieur des racines de manière à se faire des échanges. Le champignon, lui, aide la plante à être plus résistante aux maladies, pas trop aux maladies, mais surtout à la sécheresse, aide aussi à aller chercher l'eau, alors que la plante, elle, elle va tout simplement nourrir le champignon. Vous voyez, il se passe des choses, on les étudie, on ne sait pas encore tout, je ne sais pas si un jour même on saura tout, parce que, a priori, c'est extrêmement complexe.
Est-ce que dans un jardin qui n'est pas un espace naturel, on est d'accord, hein, ça a été créé par l'homme, on peut développer ce relationnel entre les végétaux?
Bah, évidemment, parce que, alors, ce qui est drôle, c'est effectivement que dans un jardin, on est capable, avec des plantes qui viennent de différentes parties du globe, d'arriver à recréer un écosystème. Tout simplement parce que il va y avoir des milieux qui vont se former avec aussi cette diversification qui génère l'équilibre et qui en... Il y a une chose qu'on sait bien aujourd'hui. Si vous faites, par exemple, une planche de salade, c'est-à-dire, par exemple, 20 mètres carrés de salade, ben vous allez attirer d'une façon formidable les limaces. Si vous mettez une salade plus une plante assez aromatique qui va pas être très très agréable pour la salade, pour la limace.
Pour la
puis
limace.
Une autre à côté qui va être un petit peu piquante, que là, pareil, vous allez réduire les risques. Et ça aujourd'hui, ce qu'on appelle donc en partie, enfin c'est une partie de la définition de la biodiversité, le fait de mélanger les espèces est très important, très utile, très valable.
Parce que c'est vrai que la nature n'est pas le monde des bisounours, hein. Parfois on voit que ça peut être compliqué. On peut pas dire que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, hein,
oui,
là-dedans. Hein.
Comme disait Jean-Yves.
Exactement.
Oui, effectivement, parce que il faut savoir d'abord que dans la nature, et ça, Peter Vollenben que je citais avant ne l'a pas du tout mis dans son livre, il y a une bagarre mais phénoménale pour deux choses, trois choses. L'accès à l'eau, puisqu'une plante a vraiment besoin d'eau, l'accès aux nutriments, donc aux éléments qui vont la nourrir,
ouais.
et surtout, l'accès à la lumière. Et donc, dans un écosystème donné, vous avez des plantes de croissance, de vitesse de croissance différente, dont le seul but, en réalité, est d'aller capter la lumière, de pousser parfois plus haut que les autres, pour pouvoir bénéficier de cette lumière. Donc, la vitesse de croissance est importante, la capacité de reproduction également, parce que si, par exemple, vous poussez pas vite, mais que vous vous reproduisez comme des lapins, ou que vous envoyez des milliers de graines dans la nature, il va en germer, et puis vous allez occuper le terrain. Encore une fois, il faut occuper le terrain.
Mmh.
Et puis, vous avez la durée de vie. Donc, généralement, celles qui envoient beaucoup de graines, elles ont pas une durée de vie très très longue, c'est par exemple souvent les graminées, alors que les arbres ils vont s'installer tranquillement, etc. Et puis vous avez aussi la capacité de résister aux problèmes simplement écologiques du lieu, c'est-à-dire d'être rustique, d'avoir suffisamment de capacité de garder de la nourriture pour
ou
passer l'hiver correctement, ou de l'eau, évidemment, quand vous êtes dans le désert, vous voyez, il y a toutes choses comme ça qui font que les plantes, elles sont pas armées de la même façon.
Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples, justement, de ces luttes des plantes?
Alors, une première qu'on connaît bien et qui pose des problèmes aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les plantes invasives. Quand on introduit dans un écosystème, et ça, ce sont souvent les jardiniers, il faut bien dire les choses, hein, mais à culpa, on peut arriver à créer un désordre, parce que, à un moment donné, une plante va s'installer, va trouver qu'elle est très bien comme ça, et elle va prendre le pas sur les autres. Donc là, on a ce côté de domination d'une espèce et qui donne un petit peu ce déséquilibre que l'on a aujourd'hui. En revanche, il y a des choses beaucoup, beaucoup plus subtiles que ça. Les racines de certaines plantes sont capables d'émettre des substances qui sont nocives pour les espèces qui poussent à proximité. Donc simplement pour éviter la concurrence. C'est un mot très compliqué que l'on utilise, qui s'appelle la télétoxie, et je vais vous donner des exemples. Par exemple, le romarin, la bruyère, le mimosa, l'eucalyptus sont des végétaux qui émettent des substances qui leur permettent de conquérir l'espace. Et par exemple, si on reprend le problème du mimosa ou de l'eucalyptus, dans une forêt d'eucalyptus, donc qui est pas du tout un arbre de chez nous, mais qu'on voit beaucoup, par exemple, dans le midi méditerranéen, vous avez qu'à regarder, il ne pousse strictement rien. Le mimosa, qui est aussi une plante australienne comme l'eucalyptus, a été introduit, et aujourd'hui, il est devenu invasif dans certaines régions, parce qu'il a justement cette capacité de faire place nette autour de lui. Et puis, il y en a un autre qu'on connaît très très bien, c'est le noyer. Le noyer qui, lui, sécrète au niveau de ses feuilles un phénol qu'on appelle la juglone, qui, une fois que la pluie, tout simplement l'a nettoyée et l'a permis de rentrer dans le sol, eh bien, empêche la pousse de la plupart des plantes herbacées, donc des herbes, et vous avez qu'à regarder, souvent, au pied d'un noyer, il n'y a rien non plus.
Patrick, pour conclure sur ce sujet, parce que je sais que vous avez encore beaucoup de choses à dire, mais est-ce que le conseil qu'on peut donner peut-être à nos jardiniers, c'est de, sur une même parcelle, planter des choses, des végétaux différents, est-ce que c'est pas finalement le meilleur moyen de commencer le compagnonnage?
Exactement, c'est-à-dire que déjà de prendre des plantes qui n'ont pas les mêmes besoins. Par exemple, dans un potager, mêler dans la même parcelle une plante racine, donc style navet, carotte, radis, avec une plante feuille, salade, chou, et puis une plante fruit, donc style tomate par exemple, eh bien là vous avez déjà des possibilités. Il y a aussi les histoires de famille. botaniques. C'est-à-dire que, par exemple, les cucurbitacées, alors elles sont particulières, vaut mieux les mettre toutes seules, parce que d'abord, ça occupe beaucoup de terrain, et souvent, elles aiment pas la proximité des autres. Mais si vous mettez, par exemple, si vous mettez deux solanacées ensemble, c'est-à-dire, par exemple, une tomate et une pomme de terre, ou une tomate et un piment, ou un piment et une aubergine, tout ça, c'est la même famille, eh bien, vous augmentez les risques d'avoir, par exemple, sur les aubergines ou les pommes de terre, si elles sont ensemble, beaucoup plus de doryphores. Et oui. Sur des tomates et les piments, d'avoir plus de mildiou. Donc ça, il faut aussi s'intéresser à la botanique de manière à ne pas mettre les mêmes familles ensemble.
J'imagine que sur Internet, on trouve non des exemples de...
De compagnonnage. On en trouve énormément. Alors, pour terminer ça, mais on pourra peut-être y revenir la semaine prochaine, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, c'est quand même de dire que ce n'est que de l'empirisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas comment ça fonctionne, pourquoi elle s'aime ou pourquoi elle s'aime pas. On ne sait pas toujours exactement ce que ça fait, mais on l'a observé. Et effectivement, on pourra la semaine prochaine vous donner des listes d'associations positives, par exemple pour éloigner les bioagresseurs, donc pour empêcher les insectes, positives pour favoriser la croissance, ou même à ce moment-là, même négatives, des plantes qui, tout compte fait, sont pas bonnes voisines et s'aiment pas beaucoup.
Patrick, on revient dans un instant. Le 3216 pour poser vos questions à notre jardinier. L'appli RMC qui vous attend, direct studio, via votre smartphone. Vous écrivez votre petit message avec votre numéro de téléphone, on peut vous rappeler. Et dans un instant, la météo du jardinier. On retrouvera vos questions au 3216 et le coup de cœur de Patrick. À tout de suite, c'était RMC.
RMC, jusqu'à 7h, votre jardin, François Sorel, Patrick Mulan.
Le week-end des experts, le jardin, c'est RMC et c'est chaque samedi, 6h-7h. Patrick, comme il est 7h moins le quart, dans un instant, nous allons retrouver votre coup de gueule ou votre coup de cœur.
Oui, j'ai pas de gueule, non.
Voilà, c'est rare. Hein, c'est
je suis vrai. Gentil aujourd'hui.
Et puis nous aurons Christiane aussi dans un instant qui nous attend au 32-16. Mais auparavant, donc, la météo du jardinier. On y va, Patrick.
Alors, jusqu'à lundi, on reste dans la même configuration, à savoir donc des vents plutôt de nord-ouest, de nord-est, pardon, qui apportent donc de la sécheresse, une fraîcheur matinale et un très beau soleil dans la journée. On aura entre 11 et 19 degrés.
Le jardin se réveille bien, là. Enfin, voilà. Là, ça y est, c'est parti.
Là, c'est un beau réveil. C'est un super printemps. Mais, à partir de mardi, on va vraiment être dans le vrai printemps. Parce que là, on était dans un printemps un peu estival. C'est-à-dire qu'on manquait, on manquait d'eau. Donc, à partir de mardi, hop, ça bascule. Les vents passent à l'ouest. Quand les vents passent à l'ouest, ils nous apportent généralement des perturbations. Et on va commencer à avoir donc les premières averses qui, curieusement, vont pas arriver sur la Bretagne, mais plutôt donc sur le pays lyonnais, sur les Vosges, etc., en matinée, mais avec une forte dégradation orageuse dans la journée du fait des températures élevées qu'il y a eu précédemment. Et donc, tout le pays va se retrouver sous la pluie à partir de mardi. Alors, du coup, les plantes vont bien apprécier cette humidité parce que, évidemment, on en avait besoin dans le jardin, mais attention, ça va réveiller les limaces, donc soyez attentifs. Et puis, ça va aussi favoriser énormément la croissance des herbes qu'on n'a pas envie de voir. Hein, donc, on appelait les mauvaises herbes dans le temps, qu'on appelle aujourd'hui les herbes sauvages indésirables. Mais donc, ayez la binette prête à couper tout ce monde-là. Et donc, du coup, à partir de mercredi, de l'ouest, on passe plutôt à un nord-ouest. Donc, on va faire quoi? Bah, toujours avoir de la pluie, mais des matinées beaucoup, beaucoup plus fraîches. On va avoir des petits 2 degrés dans certaines régions au matin. Et puis, la température moyenne.
C'est pas dangereux pour les plantes?
Bah, si. C'est-à-dire qu'on parlait au tout début de l'émission de cette offre pléthorique de plantes estivales que l'on a actuellement dans les jardineries. Quand on voit, par exemple, que à partir de jeudi ou même vendredi, on vous annonce des gelées potentielles dans le Rhône-Alpes, dans la Champagne, dans l'Auvergne, attention, on a vu avec une auditrice, Christiane, tout à l'heure, le problème de ces bougainvilliers, gardez quand même sous le coude, si vous avez mis des plantes d'extérieur estival, un petit voile d'hivernage, parce que ça protégera les plantes. Après, vous enlèverez dans la journée, mais dans la journée, on va plus monter en température autant que c'était précédemment, puisqu'un mercredi, on n'aura qu'un 16 degrés en Corse et il y aura 5 degrés autour de l'Est, vous voyez. Et donc, on aura même, après qu'une douceur qui va revenir, heureusement, jeudi, parce qu'on aura une grosse couche nuageuse, les pluies seront très soutenues, il y aura même des chutes de neige attendues en fin de journée sur les Alpes jeudi. Donc vous voyez, on revient un peu dans des considérations un peu plus hivernales. Donc attention, attention. Et puis vendredi, un lever du jour toujours très frisquet. Donc des gelées, comme je disais, Auvergne-Champagne-Rhône-Alpes, des pluies soutenues, des éclaircies et des 10 à 15 degrés. Donc une vraie journée de printemps. Alors, il y a beaucoup de choses à faire au jardin actuellement. On peut planter pratiquement tout ce qu'on veut, les arbustes, les pommes de terre, les glaïeuls, les bambous, les plantes vivaces, etc. Il y a des semis à faire, notamment au potager, les annuels rustiques. Je voudrais, mes chers amis, vous conseiller quelque chose. Quand vous allez dans votre jardinerie, passez au rayon des graines et regardez au rayon des graines de fleurs. Il y a beaucoup de plantes que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui sont simplissimes à utiliser, qu'on va simplement semer en place dans celles que vous connaissez, par exemple les cosmos. Et ça, ça manque dans nos jardins, parce que dans un petit coin de rien du tout, vous allez
ça va apporter de la couleur, des choses comme ça.
Et ça va donner de la légèreté, de la naturalité. On trouve des graines aussi en mélange de fleurs. C'est vraiment très, très, très sympa. Et puis en ce moment, on taille aussi pas mal de choses, donc tout ce qui a besoin, les arbustes déjà qui sont défleuris, hein, certains. Les glycines, alors ça, on est limite, hein. Faut tailler les plantes que l'on devait tailler en hiver, si on l'a pas encore fait, avant que le feuillage ne soit complètement développé. Sinon, vous allez bloquer quand même peu la croissance. Voilà.
Donc, profitons-en pour aller dans les jardineries.
Là, attention, c'est le bon moment.
Mais ne pas acheter n'importe quoi, hein, les plantes d'été.
Ou alors, vous prenez
si vos précautions. Si vous êtes dans le Nord, ben voilà, alors il faut prendre ses précautions.
Voilà, vous achetez des géraniums, des némésias, etc. Mais aussi un petit voile d'hivernage derrière ça.
Allez, on enchaîne avec Christiane, qui nous attend au 32-16. Bonjour Christiane.
Bonjour.
C'est Christiane numéro 2, puisqu'en fait, on n'a pas la même voix que l'auditrice de ce matin, du début de matinée. Bonjour Christiane, vous êtes aussi dans le Rhône-Alpes.
Oui.
Ah, vous voyez, c'est drôle. Et donc, il n'y a pas qu'une seule Christiane dans le Rhône-Alpes.
C'est votre fan club qui est basé là-bas, je pense.
Bienvenue avec nous. Qu'est-ce qui vous arrive, Christiane?
Ben, moi, j'ai pris des moucherons dans un anthurium. Et je n'arrivais pas du tout à m'en défaire.
Mais c'est des moucherons ou c'est des petites bébêtes qui ressemblent à des moucherons qui sont blanches, style alerodes, choses comme ça?
Blanches, oui.
Ah oui, donc c'est des alerodes. Oui, d'accord.
Et c'est quoi ça?
Des alerodes. Alors, les alerodes, ce sont des sortes de petits pucerons. Ce sont des insectes qui au départ étaient tropicaux et qui sont venus depuis plusieurs dizaines d'années. D'abord dans les serres et qui maintenant aiment bien aussi passer l'hiver dans nos appartements et qui, comme tous les pucerons, ont la fâcheuse habitude de piquer le limbe des feuilles et puis de sucer la sève, voilà, et qui embête un petit peu. Voilà.
Ah, c'est pour ça que ça a coupé une de mes grandes feuilles?
C'est pas certain, non, ça fait en général des petites piqûres et en fait la plante réagit. Alors elle peut réagir effectivement en se déformant, voilà. Non, une grande feuille d'anthurium qui se découpe, ça peut être simplement un petit courant d'air, un choc, une feuille qui vieillit. Enfin, il peut y avoir beaucoup d'explications à ça. Vous savez, il y a une chose qu'il faut se dire. Quand vous avez un phénomène, quel qu'il soit, sur une plante, et qui est que localisé, c'est pas grave. C'est-à-dire qu'une seule feuille qui s'abîme, on s'en fiche. Ce qui est important, ou grave, ou inquiétant, c'est quand vous avez une généralisation d'un phénomène. Si vous avez, par exemple, toutes les feuilles qui se découpent, ou que si vous avez toutes les feuilles qui se tortillent, ou toutes les feuilles qui sont jaunes, là, oui, effectivement, au secours, il y a un problème. Donc, pour les moucherons, que l'on appelle donc des mouches blanches ou des alerodes, il y a un truc, mais tout bête, qui fonctionne remarquablement, c'est la plaquette jaune. Vous avez, dans le commerce, on trouve ça aujourd'hui, des plaquettes engluées qui sont de couleur bien bien jaune, et ce jaune est une couleur irrésistible pour les alerodes qui vont venir se coller dessus. Et donc, vous régulez les populations comme ça, dans les serres, puisqu'en fait, on appelle ce ravageur l'alerode des serres, et donc ça pose des gros problèmes aux professionnels. Il y a belles lurettes qui font cela, donc qui font pendre dans les serres des plaquettes, alors c'est du carton, c'est je ne sais trop quoi comme matière, engluées, et vraiment, ça donne un effet remarquable. Alors, bien sûr, dans les serres, ils ont d'autres méthodes, et notamment des auxiliaires qui donnent de très bons résultats. À la maison, les auxiliaires, c'est compliqué. Hein. C'est très, très compliqué.
D'accord. Et qu'est-ce que je vais dire? Je suis arrivée à m'en sortir un tout petit peu, pour le moment. j'avais mis des allumettes avec, oui, des allumettes tout autour dans ma terre.
Bah écoutez, je connaissais pas trop le système, mais vous les avez pas fait flamber les allumettes.
Non,
quand même pas.
Donc, je vois pas trop à quoi ça sert. Voyez.
Bon, Christiane, on vous embrasse en tout cas. Merci pour votre appel.